Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias.
Спецоперации.
Украина для стран Запада всегда была лишь инструментом для сдерживания России.
Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de m'écouter en podcast, je vous propose, en compagnie d'une journaliste franco-russe, de dresser un état des lieux du paysage informationnel russe.
Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.
Зараз війна.
Dans quelques jours, cela fera 4 mois que la Russie de Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Dès le début du conflit, les médias indépendants ont été réduits au silence en Russie. Et les autres, tout particulièrement les médias d'État, sont devenus les porte-voix de la propagande du Kremlin. J'utilise à dessein la terminologie « médias d'État », qu'il ne faut pas confondre avec « médias publics ». Pour faire simple, vous écoutez actuellement une émission de RFI, qui est un média de l'audiovisuel public français. À ce micro, je peux tenir des propos critiques envers le gouvernement français ou le président Emmanuel Macron. Je ne crains pas d'être censuré et je n'ai pas à m'auto-censurer. Il en serait autrement si RFI était un média d'État, car il n'y aurait pas d'indépendance de ma rédaction vis-à-vis du pouvoir. Fin de parenthèse. Pour discuter de la sphère informationnelle russe, j'ai choisi d'inviter une journaliste franco-russe nommée Elena Voloshin. Pendant 10 ans, elle a été correspondante à Moscou, notamment pour France 24 depuis 2016. Chaque vendredi, depuis Paris, elle présente Vue de Russie sur France 24, une chronique dans laquelle elle montre, pour la déconstruire, la propagande diffusée sur les télévisions russes.
Современная Украина целиком и полностью была создана Россией.
Bonjour Elena.
Bonjour Steven.
Sur Twitter, vous vous présentez encore comme journaliste basée à Moscou. Comment doit-on vous qualifier maintenant ?
Alors, j'utilise très peu Twitter et encore moins LinkedIn. C'est pour ça que mes profils ne sont sans doute pas à jour. Non, je ne suis malheureusement plus correspondante à Moscou. J'ai mis un certain temps à le réaliser parce que 10 années de vie, de travail, le travail étant la vie quand on est journaliste et correspondant, ça... C'est intense et le départ a été tellement précipité que j'ai mis un temps effectivement à réaliser que je n'étais plus correspondante à Moscou. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis grand reporter, je suis journaliste, je suis ancienne correspondante en Russie. Je suis peut-être par la force des choses devenue spécialiste de la Russie, non seulement parce que je suis russe, mais parce que ça fait longtemps que j'ai vécu, travaillé là-bas et beaucoup étudié ce qui se passait dans ce pays qui est le mien.
Pour vous, le 4 mars 2022, donc jour de votre départ, tout s'est effondré. Mais les jours qui ont précédé, donc depuis le 24 février, date du début de l'invasion russe de l'Ukraine, j'imagine que ça a été des jours très tendus, très difficiles.
Oui, alors tout s'est effondré. Pour moi, le 22 février, quand j'ai écouté le discours de Vladimir Poutine, qui m'a absolument glacée, terrifiée, parce que j'ai compris qu'il y aurait la Grande Guerre. Mes sources paramilitaires me disaient déjà à ce moment-là qu'il y aurait la Grande Guerre. Et je dis la Grande Guerre parce que la guerre dure en réalité depuis 2014, mais voilà, le 24 février 2022, c'est un effondrement, c'est la fin, quoi. C'est la fin d'un monde, c'est la fin de la Russie qu'on connaît, de l'Ukraine qu'on connaît. Enfin, moi, jusqu'à présent, je me réveille avec, je me couche avec. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais à la frontière, hein. Je travaillais à ce moment-là à la frontière parce que j'étais partie dès le moment où la République séparatiste autoproclamée de Donetsk a ordonné l'évacuation des civils qui commençaient à arriver, à traverser la frontière et à arriver en Russie. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que voilà, ça allait s'emballer. On avait aussi toutes ces vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux de renforcement. On parlait beaucoup du renforcement militaire russe à la frontière. Donc, c'est ça que j'étais partie voir. Et le jour de la déclaration de guerre, le matin, plutôt, c'était à 5h30 du matin, j'étais à 20 km de la frontière à Belgorod. Et j'entendais au même moment les tanks et les premières explosions derrière ma fenêtre, quoi. Donc, effectivement, c'était assez tendu. J'ai couvert le tout début du conflit et puis après j'ai senti l'emballement, les nouvelles lois restrictives. Enfin, j'ai compris qu'on changeait de pays, qu'on changeait de régime surtout, que ça y est, le basculement était en train de s'opérer et qu'on maîtrisait plus surtout les règles du jeu. Et moi, étant russe, j'ai un peu senti un espèce de piège éventuellement se refermer sur moi parce que tout simplement parce que je suis russe et que j'ai la double nationalité, pas parce que si j'étais française dans un état étranger, ça serait sans doute un petit peu différent, je serais sans doute restée.
Il y avait déjà une atmosphère difficile. Vous avez raconté dans une interview à un autre média que dans la rue, un jour, en vous déplaçant et en faisant des interviews, quelqu'un vous avait qualifié de traître.
Oui, exactement. Ça, c'était justement, c'était pendant ces jours-là, parce que la propagande a redoublé d'intensité. La propagande était latente. Depuis 2014, il y avait une très forte propagande au début du conflit, au moment de l'annexion de la Crimée et de la guerre dans le Donbass. Ensuite, on était un peu rentré dans un creux. Et puis, depuis le 24 février, voilà, là, les termes de génocide, de nazis sont ressortis dans la propagande, et effectivement, une propagande aussi très forte contre l'Occident et tous ceux qui représentaient les Occidentaux. Donc moi, avec un micro France 24 dans la rue, alors qu'on avait des chasseurs qui passaient dans le ciel au-dessus de nos têtes, et que je demandais aux Russes comment on vivait la guerre, comment on vivait cette déclaration de guerre, alors qu'en fait, pour eux, c'était pas une déclaration de guerre. Du coup, au lieu de me répondre, je me suis faite notamment par une femme d'un certain âge qui passait par là avec son mari pendant que je m'installais pour faire un duplex. Je leur ai juste demandé très très tranquillement pendant qu'il passait, excusez-moi, je voudrais juste vous demander qu'est-ce que vous pensez de voilà, il y a des chasseurs dans le ciel, il y a une guerre, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, au lieu de me répondre, elle m'a crié dessus, traître, tu devrais avoir honte, attends que je te dénonce, attends qu'on vienne te chercher. Enfin, voilà. Parce que la délation aussi est vraiment encouragée par les autorités, c'est de faire comprendre aux Russes qu'eux, ils sont du bon côté par opposition aux ennemis qui veulent les détruire. Donc cette espèce de mentalité de forteresse assiégée, elle est revenue d'un coup comme ça, par la force de la propagande, d'un certain discours haineux sur les chaînes de télévision. Et donc, effectivement, comme en 2014 en Crimée, on commençait à être pris par cible par les populations, par les Russes.
Pour parler de l'invasion russe de l'Ukraine, le mot « guerre » dans les médias russes a été interdit, mais les autorités ont, elles, déclenché, ou en tout cas accéléré, une guerre contre les médias, notamment par une loi votée début mars à la Douma, la Chambre basse russe, qui a été un coup de grâce et qui punit, toujours encore aujourd'hui, de 15 ans de prison, les médias qui diffuseraient des informations, je cite, délibérément mensongères sur l'armée russe, autrement dit, plus possible de travailler sur ce conflit.
Non, c'est plus possible ni de travailler sur ce conflit, ni de dire tout simplement la vérité sur ce qui se passe. L'État s'est arrogé le monopole de la vérité qui est un mensonge, parce qu'il raconte une histoire mensongère, il ne dit pas justement qu'il y a une guerre, il dit qu'il y a une opération spéciale de démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Donc on voit qu'on est dans une propagande absolument totalitaire, au sens où ces mots n'ont aucun sens, mais c'est les seuls qu'on a le droit de prononcer. Et que tout le mythe se construit autour pour renforcer en fait cette idée d'opération de dénazification de l'Ukraine. Et au final, c'est pas seulement le discours, c'est pas seulement la couverture médiatique qui est interdite. En fait, c'est tout propos qui viendrait juste même dire qu'on est pour la paix. On n'a pas seulement interdit la guerre, on a aussi interdit la paix en Russie. Vous voyez que vous avez même des activistes qui brandissent des feuilles blanches, qui sont arrêtés, ou une tulipe jaune de l'une des deux couleurs du drapeau de l'Ukraine, qui se font arrêter. Donc c'est ce genre de qui portent des baskets bleues et blanches. On voit démonter des sièges bleus d'un stade qui a des sièges bleus et jaunes, du couleur du drapeau de l'Ukraine. Donc on voit qu'on est dans un processus qui est absolument totalitaire, absurde. Un type qui vend des bouquins de George Orwell, pareil, qui se fait arrêter pour discrédit de l'armée russe, parce que cette loi que vous mentionnez, il y a plusieurs termes. Il y a le fait de diffuser des informations mensongères. Il y a le fait de porter ce qui est présenté comme étant le discrédit envers les actions de l'armée russe. Donc même ne serait-ce que dire que voilà, par exemple, l'armée russe a effectué une frappe qui a tué des civils, ça, ce serait discréditer l'armée. Tout ça, c'est interdit. Ils sont en train d'adopter une nouvelle loi, par ailleurs, qui punit aussi de trahison d'État. Le fait d'aider un gouvernement étranger, de travailler pour une organisation internationale de façon dissimulée. Enfin, vous voyez, les termes de ces lois, elles sont tellement vastes, elles sont tellement sujets à interprétation que n'importe qui, n'importe quel journaliste, n'importe quel individu, pour peu qu'il ne soutienne pas ouvertement cette opération spéciale, eh bien, il peut tomber sous le coup de loi qu'il enverrait pour des années en prison.
Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activistes, mais aussi beaucoup de journalistes russes qui ont quitté le pays. Certains chiffres parlent de centaines de journalistes russes qui auraient quitté la Russie. Ça vous paraît plausible,
ah
ce
oui,
chiffre?
Moi, je les ai vus d'ailleurs, parce que je suis allée en Géorgie rencontrer notamment les journalistes de la chaîne de télévision Dojd, qui est relancée d'ailleurs depuis le 9 juin.
On va en parler.
Depuis Riga. Mais les derniers médias indépendants ont fermé en Russie. Les journalistes ont quitté le pays. Enfin, il n'y a plus rien à faire. Il faut vraiment comprendre, encore une fois, qu'on a changé de régime. On est dans un espace où ce n'est plus autorisé. On n'a plus le droit de travailler, de faire des reportages. Après, il y a encore des journalistes qui travaillent. Hein, donc on se demande comment. Ils font très attention aux termes qu'ils emploient, les sujets qu'ils couvrent. Par exemple, voilà, on a même une équipe de tournage pour aller filmer des parents de soldats morts. On n'a pas pu diffuser le reportage parce que clairement, il y a eu des difficultés qui font que, en fait, on met nos équipes en danger si jamais on le diffuse. Donc, il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut faire très attention. Et les journalistes qui continuent de travailler dans ces conditions, ils travaillent dans des conditions extrêmement dures. Mais en tout cas, tous les médias, les vrais médias indépendants, Novaya Gazeta, Echo de Moscou, pas Echo de Moscou d'ailleurs, parce qu'ils n'émettent plus, mais Novaya Gazeta, Dojd, ils sont partis à l'étranger, ils émettent depuis l'étranger. Ils font un excellent boulot d'ailleurs. Medusa, par exemple, l'un des sites... Russes indépendants, ça fait des années qu'ils sont basés en Lettonie, d'ailleurs, comme quoi la répression envers les médias ne date pas d'hier. La répression totale date du début de la guerre en février, mais la répression, elle est plus ancienne. Et oui, ils arrivent quand même à faire un très bon boulot, mais évidemment, ce n'est jamais pareil que lorsque vous êtes sur place.
Et puis, leur contenu étant rédigé depuis l'étranger, leur site étant bloqué, leurs antennes étant coupées en Russie, ils sont privés de ce qui représentait le gros de leur audience aussi.
Alors, je pense que l'audience qui suivait ces sites, elle continue de les suivre, parce que c'est une société qui est très polarisée en Russie. Ce n'est pas comme si, tout d'un coup, on perdait sa source d'information et on va vers les médias d'État. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens qui sont le public de ces médias, ils savent qu'ils connaissent les difficultés de ces médias. Donc, ils vont aller utiliser des VPN, ils vont aller les lire sur Telegram. En réalité, c'est pas du tout compliqué, finalement, même malgré les blocages, d'avoir accès à ces sites et à cette information. Le problème des médias et de l'opinion publique en Russie n'est pas un problème d'émission, c'est plus un problème de réception. C'est-à-dire, qui est là pour recevoir ce message, qui parvient à avoir même, ne serait-ce que la volonté d'accéder à cette information. Parce que, pour être banal, je vais citer Orwell qui disait que le propre de la propagande, c'est d'empêcher les individus je sais plus la citation exacte, mais de penser même qu'ils pourraient remettre en cause la propagande, d'avoir la conscience qu'ils pourraient devoir aller chercher une autre information que celle de la propagande. Et donc, du coup, en fait, les actions de résistance informationnelle, elles se jouent plus au niveau de ceux qui essayent de faire passer un message de vérité à ceux qui ne vont pas chercher l'information alternative. Donc, ça passe par des messages dans l'espace public, par des stickers collés sur des bancs, des messages sur les murs. Par exemple, pour la chronique vue de Russie, moi, je regarde les sites russes, et la principale plateforme de vidéos sur demande de la holding de télévision publique russe, en ce moment, elle est la cible d'une attaque pirate. Donc, au lieu d'ouvrir le site, vous tombez sur un message « Poutine tue les Russes et les Ukrainiens » avec des photos d'enfants morts côté ukrainien qui défilent, de destruction des villes ukrainiennes. Des images que les Russes ne voient pas sur leur chaîne de télévision. Les Russes disent « Mais non !» Parce que la propagande russe leur dit que leur armée n'effectue que des frappes ultra ciblées sur des infrastructures militaires et ne jamais sur des civils. Et donc, en fait, des images que les Russes n'ont même pas conscience que leur pays bombarde l'Ukraine en ce moment et tue des civils. Eh bien, voilà, c'est tout l'enjeu, en fait, c'est de faire parvenir cette information et ces messages à ce public-là, qui n'est pas celui des médias d'opposition.
Je vous propose d'écouter, justement, à ce propos, Julien Nocetti. Il est enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr et chercheur associé à l'IFRI. Il était dans l'atelier des médias début mars 2022.
On a quand même souvent coutume, depuis une dizaine d'années, de distinguer à grands traits une Russie de la télévision, hein, donc qui accède avant tout à la télé d'État, aux grandes radios d'État également, et ce sont plutôt des Russes qui sont des retraités, également des fonctionnaires, hein, évidemment des administrations russes, mais également des grands conglomérats d'État, hein, dans l'énergie, dans l'armement en particulier. Et à côté de ça, vous avez une Russie d'Internet, qu'on peut aussi évidemment analyser plus finement, mais qui est globalement plus jeune, plus urbaine, hein, très présente évidemment dans les grands centres comme Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis d'autres grandes métropoles en Sibérie, comme Novosibirsk, ou dans l'Oural, Yekaterinbourg, et avec parfois des mouvements de coordination citoyenne ou de protestation aussi qui sont organisées via les outils numériques dans ces grandes villes, et ce qui a donné lieu à toute une scène et toute une scène militante et à beaucoup de stratégies de contournement par rapport à des mesures de plus en plus restrictives au fond, hein, depuis 2012 et le retour de Poutine au Kremlin.
Vous partagez l'analyse de Julien Nocetti, Elena Voloshin?
Oui, bien sûr, je la partage. Alors après, je voudrais juste nuancer peut-être cette fracture générationnelle indubitable entre les parents, les grands-parents, une population plus âgée qui est plus acquise aux chaînes de télévision d'État, certes, ceux qui ont notamment aussi connu l'URSS et puis les jeunes qui sont nés après. Donc ça, c'est clair que cette fracture, elle existe. Maintenant, il est surprenant de voir que de nombreux jeunes aussi soutiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup Vladimir Poutine, parce qu'il y a un gros travail fait d'éducation patriotique. Ce sont des programmes entiers à destination de la jeunesse. Et il y a aussi des émissions, en parlant de propagande, sur les chaînes de télévision qui tendent, notamment Moscou, Kremlin, Poutine, qui a toujours une façon de tourner très punchy, des montages très dynamiques, tout ça pour donner une image de, fraîche à un président complètement vieux, bouffi, tout ce qu'on veut, qui n'est pas là pour inspirer la jeunesse. Mais voilà, pour lui donner une image un peu dynamique. Et du coup, on l'a vu par exemple là il y a quelques jours à une rencontre avec des jeunes entrepreneurs, et ce n'est pas qu'un effet de propagande. C'est-à-dire que même quand vous parlez aux jeunes dans la rue, souvent ils vous disent oui, nous on est pour l'opération spéciale, on est pour la dénazification de l'Ukraine. Enfin, c'est vraiment surprenant de voir que même des jeunes de 20-30 ans peuvent aussi être très 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 sujets à la propagande.
Elena Volochine, début mars, dans l'atelier des médias, je recevais Maxime Audinet, enseignant-chercheur au sein du Master d'études russes et post-soviétiques de l'Université Paris-Nanterre. Il est également chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Maxime Audinet nous parlait de la partition des espaces informationnels en 2022.
On est en train d'observer une partition des espaces médiatiques et informationnels russes d'un côté et occidentaux, européens en particulier de l'autre. Et ce qu'on voit en Russie, c'est qu'on a un contrôle très 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 accru sur l'espace médiatique et informationnel qui en fait marque le coup de grâce de tout l'écosystème médiatique indépendant en Russie. Et c'était un écosystème qui était déjà très affaibli, et notamment depuis l'affaire Navalny qui avait entraîné la mise au ban, si on peut dire, de ces médias, puisqu'ils avaient été pour la plupart placés sur la liste des agents de l'étranger, ce qui les affaiblit notamment du point de vue des annonceurs qui du coup ne refusent ou ne peuvent plus les financer. L'information en provenance de Russie, ou même l'information pour les Russes indépendante, ça c'est en train de se tarir très fortement.
Elena Volochine, dans votre chronique sur France 24 qui s'intitule « Vue de Russie », vous parlez notamment très souvent d'une chaîne, la chaîne d'État Rossiya 1, sur laquelle on trouve des émissions fleuves de propagande pure et dure qui occupent l'antenne pendant plusieurs heures parfois. Et vous nous dites, que ce sont des réalités parallèles qui sont diffusées là.
Oui, sur cette chaîne-là, et aussi sur... En fait, c'est l'une des deux principales chaînes de l'État, et c'est exactement la même situation pour Первый канал, l'autre chaîne, la grande chaîne de l'État russe. En fait, effectivement, depuis le début de la Grande Guerre, encore une fois, toutes les émissions de divertissement, tous les autres programmes, puisque ce sont des chaînes généralistes et pas que des chaînes d'information, mais toutes les autres émissions ont été supprimées au profit de la chaîne informationnelle. Ce sont devenus soi-disant des chaînes informationnelles, alors que ce sont des chaînes de propagande, et ce sont effectivement des émissions de débat, fleuve, pas tellement de débat parce qu'on n'est pas en train de poser des opinions, mais des talk-shows, en fait, plutôt, où pendant des heures, on déblatère sur le fait que l'Ukraine ne doit pas exister en tant qu'État, le fait que l'Occident veut nous détruire, le fait que les sanctions ne nous font aucun mal, le fait que les nazis ont encore massacré tant de civils dans le Donbass.
Il y a place à la contradiction, quand même, parfois, dans ces émissions, ou pas ?
Alors, c'est une bonne question. C'est très rare qu'ils invitent des invités qui sont dans la contradiction, justement. Je suis tombée sur une émission où il y avait un invité d'origine tchèque, d'ailleurs, avec un très très fort accent, qui avait du mal à parler russe. Donc déjà, il a du mal à s'exprimer dans un espace où il y a trois autres invités qui lui tombent dessus il s'est fait avaler, quoi. C'est-à-dire que parfois, ils invitent comme ça un invité qui porte une voix contradictoire, mais c'est seulement pour mieux le briser, pour mieux montrer qui est pour le ridiculiser, en fait. Enfin, c'est un espèce de cirque comme ça où tout est. Enfin, il y a plutôt une apparence de débat parce que souvent le ton monte, mais c'est pour qui crie au mieux le message du Kremlin, en fait, qui amplifie le plus le message du Kremlin.
Et les équipes éditoriales derrière tout cela, derrière ces émissions, derrière ces chaînes, ont-elles changé ou sont-ce les mêmes au final depuis plusieurs années ?
Alors, je suis à peu près certaine qu'ils n'ont pas de renforcement d'effectifs et que les gens ne se battent pas pour aller travailler là depuis le 24 février. Il y a des défections, en revanche. Il y a des gens qui ont des sources à l'intérieur qui parlent de, ou même des journalistes qui sont partis, qui racontent les défections. Je pense qu'il y a une rupture, en fait, purement le 24 février, ou autour du 24, ou juste après le 24 février. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été complètement horrifiés par l'ampleur de la chose sont partis. Et puis ceux qui devaient rester sont restés. C'est-à-dire que voilà, maintenant ça se polarise de nouveau. Et puis faut voir que les salaires aussi sont très élevés. Ils ont de nombreux avantages sociaux. Enfin, voilà, c'est comme les gens qui partent se battre, si vous voulez, ils ont une bonne contrepartie pour pactiser avec leur conscience. Après, ce ne sont pas que des gens qui pactisent avec leur conscience, ce sont aussi beaucoup de gens qui sont convaincus que de cette idéologie de la grande Russie, parce que finalement, ce qu'il y a derrière l'opération militaire de Vladimir Poutine, c'est ce qu'il dit, c'est de restaurer finalement quelque chose qui est légitimement les frontières de la Russie, enfin dans l'idée d'un empire. Et il y a un certain nombre, c'est un courant de pensée qui est hérité du début milieu du XXe siècle. Et c'est un courant de pensée auquel adhèrent de nombreux intellectuels aussi russes et de nombreux journalistes, de nombreux propagandistes qui sont des impérialistes en fait tout simplement et qui sont persuadés que eh bien la Russie est dans la bonne cause et que les nationalistes sont des nazis et qu'il faut les détruire, etc. Après voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins dans un discours totalitaire voire d'extermination. Enfin, je n'ose pas employer le mot génocidaire, mais des fois j'entends des choses de la part des propagandistes. Enfin, on est purement dans la volonté d'un nettoyage ethnique. Hein. Ça c'est absolument évident.
Après de longs moments. Il est temps que je respire. J'étais ton stand de tir. Tu m'as laissé coucher. T'as posé ton étendard de manière frénétique. J'ai encore le corps qui grésille. J'ai déposé les armes. Je ne tenais qu'un fil. Je ne suis plus identique. J'ai du mal à me l'avouer. Perdu mes gardes du corps, le temps que tu t'excites. Mais que veux-tu me dire là-haut? Douleur, viendras-tu lentement m'ennuyer? Que faut-il, que veux-tu m'annoncer, m'annoncer? Rien senti de semblable que les claques de ta clique. Je n'attendais pas pire, tu m'as bien bousillé. C'était si dur de voir les autres se divertir. J'ai encore le corps qui grésille.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mon invitée est Elena Voloshine. Pendant 10 ans, elle a été correspondante en Russie. Dans une précédente interview, vous avez dit « Jamais les Russes ne voient dans leurs médias les destructions et les morts causées par leur armée ». Ma question, c'est y a-t-il derrière tout cela beaucoup d'images parfois modifiées qui sont diffusées, ou alors c'est simplement de l'omission pure et dure ?
Non, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de destruction causée par l'armée russe côté ukrainien, ou alors il y a de telles images pour dire qu'en fait les Ukrainiens ou les Occidentaux, par l'entremise des Ukrainiens, auraient organisé une provocation comme à Boutcha. Ils ont montré par exemple les images de Boutcha. Alors au début ils disaient que les cadavres ont bougé après le départ des caméras, ensuite ils disaient que c'était les Ukrainiens qui avaient massacré des civils et les avaient placés là pour accuser les Russes. Ils disaient aussi que soi-disant les Occidentaux préparaient d'autres provocations dans la région de Soumy, d'autres mises en scène sanguinaire. Enfin, c'est un discours, si vous voulez, les images, on peut les montrer, mais il faut juste voir le discours qui les accompagne. Encore une fois, le théâtre de Mariupol, par exemple, avant l'occupation russe, ils l'avaient montré, mais en disant que c'était le bataillon Azov qui avait fait sauter le théâtre et retenu les civils en otage et les avait utilisés comme boucliers humains. Ça, c'est un discours aussi récurrent dans la propagande russe, les nazis qui utilisent les civils comme boucliers humains. Et en fait, au final, la propagande russe accuse toujours les Ukrainiens de faire des choses que font les Russes. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, il y a des images, mais elles sont toujours commentées en disant que c'était soit une provocation pour accuser la Russie, soit c'est un fait d'armes des Ukrainiens.
On en a parlé déjà au début de cet entretien, des publications et des médias indépendants ont suspendu leurs publications, notamment parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser le mot « guerre » ou qu'ils ne pouvaient pas montrer ces images dont vous parlez. Il y a déjà Novaya Gazeta, dont le directeur de publication avait reçu le prix Nobel de la paix pour son engagement et le sérieux de son travail. On a cité Dojd aussi. Ces médias, pour la plupart, avait émergé dans les années 90. On ne va pas dire qu'il y avait une presse florissante en Russie, mais en tout cas, il y avait des marges de liberté. Et ce sont des marges qui se sont restreintes jusqu'à être quasi inexistantes maintenant.
Oui, complètement. Par exemple, Dojd, que vous mentionniez, c'était une chaîne de télévision. Hmm. Ils sont passés sur Internet, c'est devenu une web télévision. Dans les années 90,
qui avait été créé en 2010, Dojd.
Tout à fait, c'était pas, et en plus, ce n'était pas dans les années 90. Mais par contre, Écho de Moscou, ça date du début des années 90, qui a été racheté d'ailleurs par Gazprom, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une certaine liberté éditoriale, alors bien que son directeur aussi a été décrié pour ses proximités avec le Kremlin, etc. Enfin voilà, le système médiatique russe, c'est quand même quelque chose parfois d'assez complexe. Mais y compris d'ailleurs quant au propriétaire de Novaya Gazeta, qui est un oligarque russe assez proche du Kremlin. Mais pour répondre à votre question, dans les années 90, il y avait un début de démocratie. Il y avait plutôt une tentative de démocratie, une démocratie balbutiante. C'était plus un espèce de chaos où, en fait, tout était permis et toutes les voies étaient permises, mais tous les coups étaient permis aussi. Donc, à l'aune des élections présidentielles de 1996, tous ces médias, ces chaînes de médias, dont notamment la chaîne de télévision NTV, qui avait cette célèbre émission satirique, l'équivalent de Nos Guignols, qui ensuite a été fermée et dont le directeur a dû s'exiler en Espagne, je crois, l'oligarque Goussinski. Donc, lorsqu'il y a eu aussi la reprise de ces chaînes de télévision très libre pour les instrumentaliser au profit de divers camps politiques. Donc en fait, la démocratie a échoué, je dirais, après, avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine et à l'aune des guerres de Tchétchénie. À partir de 1999, c'en était fini de cette espèce d'élan où on avait tenté de mettre en place un système pluraliste et démocratique sur les ruines de l'Union soviétique. Et au final, aujourd'hui, on arrive dans une situation où c'est un pays qui n'a jamais connu finalement un système démocratique. Et en cela, c'était d'ailleurs compliqué de parler de médias indépendants, parce que je dirais que les médias ont toujours été en Russie soit pour, soit contre. Il n'y a jamais eu vraiment de journalisme neutre et indépendant selon nos canons à nous, bien que cela sonne de façon très grandiloquente, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a des règles éthiques, déontologiques qu'on applique tout simplement à la lettre, nous, dans les médias en France, en tout cas qu'on tente de faire respecter, nous, à notre niveau de journaliste. Et ce sont des choses qui ne sont pas apprises, pas vraiment connues dans un système où, en fait, lorsque vous voulez faire votre métier de journaliste, vous devez, par définition, vous opposer, parce que sinon, vous n'y arrivez pas, tout simplement. Donc voilà. Et moi, j'ai cette difficulté-là, par exemple, aussi, même depuis le 24 février, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans, quand même, dans cet espace extrêmement complexe pour un journaliste, où, en fait, il n'y a même pas la compréhension de ce qu'est un journaliste. Lorsque vous parlez avec les gens, ils vous voient par défaut et a priori comme quelqu'un qui doit servir une cause ou un message, qui est dans un camp. Ils ne voient pas que vous venez tout simplement pour essayer de façon impartiale de comprendre ce qui se passe, les tenants et les aboutissants, et transmettre l'information telle qu'elle est et gratter le mur de la communication. Et donc, du coup, pour moi, c'est assez compliqué parce qu'en fait, vu ce qui s'est passé le 24 février et l'horreur de cette chose, je n'arrive pas, j'ai aussi moi un peu de mal à trouver ma place là-dedans, ayant vécu 10 ans dans cet espace, me retrouvant aussi maintenant en France où je dois m'en tenir à cette position de qu'on voudrait croire de neutralité, mais en fait, moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on ne peut pas vraiment commenter cette situation. C'est-à-dire qu'en étant trop neutre, on manquerait presque d'objectivité, parce que je sais exactement ce qui est en train de se passer, je sais exactement ce qu'est en train de faire la Russie. Je suis horrifiée par cela, et je ne peux pas me départir de ce sentiment. Et
on n'en voit pas le bout, et on se dit que ça va durer longtemps.
On n'en voit pas le bout, on n'en voit pas l'issue. Et encore une fois, moi en tout cas, je suis dans quelque chose qui quelque part me dépasse presque en tant que journaliste. Parce qu'en Russie, par exemple, pour parler des journalistes, ils disent je suis activiste et je suis journaliste. Ça, pour nous, c'est absolument impensable. On peut pas être et journaliste et activiste. Soit vous servez une cause, soit vous êtes journaliste et vous êtes dans la neutralité.
Elena Voloshin, peut-on dire qu'en Russie, il n'y a pas une très grande culture des médias, de l'information, de l'importance de s'informer ?
Non, je pense qu'il y a une... on est plutôt... la propagande, en tout cas, véhicule l'idée en permanence qu'on est dans la guerre informationnelle, quoi. Et la guerre informationnelle, c'est presque une guerre aussi noble, légitime et juste que le serait la guerre de la Russie pour sa survie. Parce que le mot guerre, d'accord, il est interdit, mais en fait, la conscience des gens est celle d'une conscience en guerre. Et les gens sont conscients que leur pays est en guerre, mais ce qui est présenté comme une guerre purificatrice, une agression préventive, quelque chose qui serait là pour ensuite, une fois dépassé, assurer la survie à long terme de la Grande Russie. Et dans cette guerre, eh bien, l'une des armes, en fait, c'est la guerre informationnelle. informationnelle, sauf que la propagande le brandit comme une guerre informationnelle qui serait menée contre la Russie par les Occidentaux et par le monde entier, finalement. Et en ce sens-là, eh bien, les Russes n'ont pas la compréhension du tout de ce qu'est un espace médiatique et informationnel où ils y... en fait pour eux dès qu'ils vont chercher une information, dès qu'ils vont aller lire un message, ce sera un message véhiculé par quelqu'un qui a des intérêts politiques derrière. Et en ce sens, eh bien, l'intérêt des médias d'opposition, effectivement, c'est ceux de pouvoir rentrer dans leur pays, travailler dans leur pays et exister. Et en ce sens-là, leur intérêt, c'est que Vladimir Poutine parte du pouvoir. C'est là où je dis qu'en fait, il n'y a pas de neutralité possible. On ne peut pas dire juste de façon neutre. Vladimir Poutine est un président légitimement élu parce qu'il y a toute cette apparence de légitimité autour de lui. Donc, on ne peut pas considérer son message comme étant un message officiel, véridique, neutre, lorsqu'il est dans un mensonge d'État. Est-ce que vous êtes neutre ou pas lorsque vous le dénoncez, par exemple? Est-ce que les médias russes, indépendants, qui ont été forcés à l'exil, ils sont neutres lorsqu'ils dénoncent cela, ou est-ce qu'ils sont plutôt objectifs en disant que Vladimir Poutine est illégitime, que c'est un dictateur et qu'il doit partir? Vous voyez toute la difficulté de ce débat.
Quand on lit les commentaires sur YouTube sous votre chronique Vue de Russie, eh bien, on voit justement des gens qui vous disent « Vous, Elena Voloshin, n'êtes pas neutre et vous avez des intérêts, vous aussi, dans tout ça. » Qu'est-ce que vous répondez à ces
gens-là ? Je réponds exactement ce que je viens de dire ici. C'est-à-dire que, pour moi, il faut tout simplement appeler un chat un chat, un régime totalitaire, et si on ne le fait pas, c'est là qu'on n'est pas neutre. Alors effectivement, c'est extrêmement facile avec ma chronique de dire « propagande toi-même ». Mais il faut voir d'abord qui écrit les commentaires. Enfin, moi, je pense que d'abord, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des trolls, donc des gens qui expressément, dont c'est le métier et la source de revenus de faire ce genre de choses. Ensuite, je ne prétends absolument pas qu'il n'y a que des trolls et qu'il n'y a pas de gens qui pensent réellement et qui critiquent réellement ce qu'on fait. Heureusement qu'il y en a. Simplement, on a aussi une grande partie de notre audience sur le continent africain. Et on sait que les officines du Kremlin et les outils de propagande du Kremlin ont aussi une grosse portée sur le continent africain. Et je le dis de façon très assumée, je suis persuadée que les gens écoutent ces messages, qui sont fabriqués de façon extrêmement efficace, qui ressemblent pièce pour pièce à de l'information, mais qui n'en sont pas, qui sont justement là pour faire de la propagande. Et après, on en revient presque à un scénario qui serait parole contre parole. Donc moi, si vous voulez, je ne réponds jamais et je ne m'engage pas dans ce débat-là. J'assure pas le service après-vente, en gros. Moi, mon métier, et je me suis toujours refusée, y compris en étant en Russie, parce qu'on a subi aussi cette guerre informationnelle pendant des années, et si vous rentrez là-dedans, vous n'en finissez pas. Donc moi, mon métier, c'est celui d'informer, d'essayer de montrer de façon la plus juste, la plus complète et la plus...
rigoureuse.
La plus rigoureuse et la plus fine possible aussi ce qui se passe à l'aune de ma connaissance du pays, à l'aune de tout ce que je peux faire sortir aussi, parce que la propagande, c'est toujours plus efficace quand on la montre ou quand on la fait entendre que quand on en parle. Parce que quand on dit propagande, voilà, on nous répond propagande toi-même. Mais quand je montre ces extraits de télévision russe, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette chronique Vue de Russie. Quand je laisse entendre ces messages, je pense que ça parle par soi-même. Et du coup, je pense que les gens qui commentent et qui sont encore pas persuadés de ce message, c'est tout simplement parce qu'ils sont polarisés avec une opinion qui est de l'autre côté, qui vient leur dire que tout ceci, c'est du mensonge, etc., etc. Donc, et je ne veux pas m'engager dans le débat de dire non, ce que moi je vous dis, c'est la vérité. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Les gens sont... Et je suis pour le pluralisme, je suis pour la liberté d'opinion. J'ai suffisamment vécu dans un espace qui n'en a pas pour dire c'est très bien que chacun ait son opinion. Les gens ont absolument le droit de dire ce qu'ils pensent, de penser ce qu'ils pensent. Mon boulot, c'est de leur apporter une certaine information. S'ils y croient, tant mieux. S'ils n'y croient pas, tant pis.
Merci Elena Voloshin.
Merci à vous.
Je rappelle votre chronique Vue de Russie. Elle est diffusée chaque vendredi à 18h40, heure de Paris, sur France 24. Et on peut évidemment la retrouver sur la chaîne YouTube de France 24. À bientôt dans l'Atelier des médias.
Merci, à bientôt.
C'est bientôt la fin de l'Atelier des médias, le moment de Mondoblog Audio qui vous fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Lundi 20 juin, c'est la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, Mondoblog Audio donne la parole à Patrick Akiza, blogueur congolais réfugié en Ouganda. Depuis Kampala, il évoque la question cruciale de la scolarité des enfants qui vivent dans les camps de réfugiés en Ouganda. Elle s'est arrêtée net au plus fort de la pandémie de Covid-19, toutes les écoles ayant fermé. Depuis, la vie a repris, mais beaucoup d'établissements n'ont toujours pas rouvert leurs portes, ce qui est très mauvais pour l'équilibre de vie de ces enfants réfugiés.
L'Ouganda est aujourd'hui le plus grand pays d'accueil des réfugiés en Afrique. Il accueille presque 1,5 million de personnes, originaires principalement du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Parmi ceux qui fuient les violences et la guerre, une grande majorité de femmes et d'enfants. Certains enfants arrivent non accompagnés. Dans leur fuite, ils se sont retrouvés séparés de leur famille. Ils grandissent soit dans des camps de réfugiés, soit dans les villes comme Kampala, où ils sont associés à la population locale. Ce sont des réfugiés urbains. Les enfants réfugiés bénéficient du principe d'éducation inclusive. Cela signifie que le pays donne accès à l'éducation pour tous les enfants réfugiés en les associant au système éducatif national. Que ce soit dans les camps ou en ville, les écoles jouent un rôle essentiel pour ces enfants déracinés. Elles offrent un enseignement de base comme la lecture, le maths, mais aussi l'hygiène, et une chance d'oublier les traumatismes extrêmes qu'ils ont subis. L'éducation offre non seulement une occasion d'apprendre, mais elle offre également un lieu de sécurité où les enfants réfugiés peuvent souffler. Sans école, ils n'ont pas de lieu sûr pour jouer et sont angoissés par leur nouvel environnement et le manque d'accompagnement. Tandis qu'à l'école, les enfants sont en lien avec des enseignants, des psychologues et accompagnateurs. Les écoles les aident véritablement à grandir. Mais par manque de moyens mis en place et par manque de sécurité, moins de la moitié des enfants réfugiés en âge d'être scolarisés sont inscrits dans une école. Pourtant, ces enfants, déjà extrêmement fragilisés, devraient être systématiquement pris en charge. Beaucoup ont déjà connu d'absence prolongée de l'école à cause des violences dans leur pays.
Mondoblog.org.
C'était Patrick Akiza, mondoblogueur de République démocratique du Congo, réfugié en Ouganda. Des dizaines de mondoblogs audio comme celui-ci sont disponibles à l'écoute sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon de Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou encore l'appli Radio France pour ne rater aucun épisode. Mettez-nous des étoiles sur toutes les plateformes où vous le pouvez et laissez un commentaire pour donner envie au plus grand nombre de rejoindre notre communauté d'auditeurs et d'auditrices. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.